Intervenants. Et avant de donner la parole à la salle, je vais poser une question à chacun. Anita, je voudrais revenir sur la toute fin de ton exposé où tu évoques ce qui se passe, en fait, pour le sujet au fur et à mesure qu'il avance dans son analyse, puisqu'il cesse de chercher à écrire à mesure de l'inégalité entre les sexes. Et bon, donc, il s'agit en fait de contredire le mythe d'Aristophane, puisqu'il n'y a pas le rapport sexuel. Et ma question, c'est comment le transfert qu'on analyse opère en ce sens pour que ce processus se déroule au fur et à mesure, en le sens que le sujet, petit à petit, cesse de chercher à écrire la mesure de l'inégalité, il cesse de souffrir de l'inégalité entre lui-même et l'autre. En quoi le transfert, le maniement du transfert permet cela. Et puis je voudrais revenir aussi sur la question que tu as évoquée concernant la situation de femmes résistantes pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque il me semblait que ça faisait un peu écho avec ce que vous avez aussi dit concernant la clandestinité, c'est-à-dire que chez ces femmes, il s'agissait de tromperie, de faire semblant, et vous parlez de tout à fait autre chose, de la transmission clandestine du pouvoir entre les hommes pour l'ascension sociale au fil du temps, alors peut-être quand même un peu diminué aujourd'hui, hein. Alors, une question plus précisément pour vous, David Bernard, c'est pour ce qui concerne ce que vous évoquez à la fin, une histoire possible de ce signe égal, et précisément de la question de la fureur de résoudre, si vous pouvez un peu plus préciser ce que vous voulez dire par la fureur de résoudre. Voilà, et pour Hélène, j'aimerais beaucoup que tu reviennes sur le cas que tu évoques à la fin, et notamment cette dernière phrase, si tu veux bien l'expliquer un peu. C'est impossible, pour lui dire l'improbable de ce temps partagé, se présente comme l'équivoque de l'impossible et l'impossible de leur relation. Et j'avais aussi une question par rapport au père de la Horde, puisque tu évoques donc Totem et Tabou. Et je me demandais si lorsque vous évoquez le fondement homosexuel de toute société, on ne peut pas faire éventuellement un lien avec justement la thèse de Freud dans Totem et Tabou.
Je réponds là. Je commence. Donc, alors en effet, dans le maniement du transfert, qu'est-ce qu'il s'agit d'introduire pour qu'il y ait, puisse y avoir bien ce rapport à l'inégalité des sexes ou à l'impossible de rencontre entre les sexes. Alors c'est vrai que le psychanalyste maintient la différence entre l'idéal et le réel. Il a toujours cette position dans le transfert de maintenir une distance, comme Lacan l'a développé dans la dernière partie du séminaire 11. Et c'est ça qui fait que le sujet, même s'il développe son rapport à la castration, son rapport à la croyance dans la consistance de l'autre, de la rencontre entre les sexes, et de faire valoir un sexe sur l'autre, bien sûr, il va élaborer ça. Mais le fait que dans le transfert, le psychanalyste maintienne cette distance entre l'idéal qui fait que l'analysant élabore ça en raison de ses identifications, le fait que le psychanalyste maintienne cet écart avec le réel permet au sujet, du coup, d'élaborer ce qui a fait la cause de son désir et la cause de cette inégalité, finalement. Et c'est vrai que donc du coup, on dira que dans une analyse, au-delà de cette inégalité, ce qui se joue pour un sujet quand il va vers la fin de son analyse, c'est plus une question d'égalité ou d'inégalité, mais de différence absolue finalement. De creuser justement le rapport à sa propre béance, à sa cause du désir, et qui fait que il pourra faire la différence entre le moins fi de la castration et la construction de l'objet A de son fantasme, ce qui a fait la cause de son désir.
Ce serait quand même, si on prend un peu le retour historique sur la situation des femmes, sur les différents positionnements féministes, sur aussi le mouvement MeToo, sur les exemples que vous avez donnés, cette conclusion que tu amènes, et puis l'explication, enfin, ce qu'on peut constater, c'est quand même qu'il se creuse une grande différence finalement entre les sujets par rapport à tout cela, entre les sujets analysés et les sujets qui n'ont pas l'expérience de la psychanalyse. Et c'est quand même un débat très actuel, et donc l'une des questions qui peut se poser, c'est comment les psychanalystes de la communauté psychanalytique peuvent se positionner face à ces débats qui sont très vifs actuellement. Puisque c'est des débats souvent avec des sujets qui soutiennent fortement des positions, mais qui n'ont rien à voir avec l'expérience psychanalytique.
Oui, alors sur la fureur de résoudre, c'est ce qui m'est venu suite à cette remarque d'Heidegger concernant le fait qu'il y avait dans le discours de la science une volonté, structurellement une volonté d'abolir la distance. Et d'abolir la distance, d'ailleurs ce qui se remarque, et pas que dans le discours de la science, mais aussi dans son alliance aujourd'hui avec le capitalisme, le règne du tout à proximité, on a ça partout, notamment via le numérique, etc. Voilà, je trouvais intéressant ce qu'il amenait là, disant que vouloir finalement abolir la distance, il y a derrière ça toujours une volonté de destruction, finalement, de ce sur quoi on voudrait avoir la main. Et donc voilà, ça me semblait faire écho à ce que Lacan décrit concernant le fait que le rejet du réel de la différence des sexes, on peut dire autrement, le rejet du réel du non-rapport sexuel, il y a toujours en retour de cela des effets de ségrégation, que ce soit entre les sexes, que ce soit concernant le racisme, par exemple. Parenthèse, mais c'est très intéressant, je trouve, de voir que les exemples que Lacan prend sur le racisme pour démontrer la logique du racisme, ce sont précisément des exemples de bienfaisance, c'est-à-dire des exemples d'initiatives qui sont prises pour faire le bien de l'autre. Et avec l'idée qu'il a, qui est que vouloir faire le bien, c'est toujours le bien de l'autre, c'est toujours vouloir se soumettre à l'autre. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a derrière ça une volonté d'imposer à l'autre notre propre mode de jouissance, là où l'altérité, comme altérité de jouissance, en effet, peut animer angoisse, etc. Et donc oui, fureur de résoudre... quand il s'agirait, en effet, d'essayer de rejeter ce point de réel. On pourrait mettre dans cette même lignée tout ce que Lacan dit, la critique qu'il fait des différents fantasmes de libération. Ce pourquoi il dit qu'il n'est pas progressiste, etc. Enfin, et voilà, c'est toujours la même logique, en fait, que plus on prétend pouvoir se libérer de la limite... du réel de la limite, plus on promet des effets de retour de cette limite, d'où l'autre rapport à la limite qu'il propose, qui a un apport mathématique, enfin la limite qu'on approche, mais qu'on ne transgresse jamais. C'est pour ça qu'ils ont dit ce terme de transgresser. Et voilà. Oui, la clandestinité, oui, la transmission du pouvoir phallique en clandestinité, ben oui, mais un pouvoir en fait, alors qui n'est pas sans effet, mais qui n'est qu'un semblant de pouvoir, c'est la thèse de Lacan, dont dit-il, les hommes sont particulièrement plus directement affectés. Quand il dit les hommes affectés de n'être que semblant de pouvoir, équivoque sur le naître, mais dont il dit, d'ailleurs là il adresse une remarque assez critique au féminisme, disant en tous les cas que tout son enseignement ne va pas dans le fait d'encourager les femmes à essayer de rejoindre ce pouvoir-là dont elles savent très bien finalement la vanité. En même temps, ça questionne, parce que ce progrès social, ben, voilà, comment faire sinon mais en tous les cas, voilà, d'un point de vue, disons, plus subjectif, il amène cette remarque-là, hein, que si le féminisme encourageait finalement à rejoindre pour tous le pouvoir phallique, cette vanité, la vanité de ce pouvoir-là, ça promet aussi des effets de symptômes, etc.
Et par rapport à justement cette tromperie qui était toute différente, ces femmes résistantes.
Parce que les femmes résistantes étaient des clandestines, justement. Donc je me disais, en effet, il ne s'agit pas de la même clandestinité, hein, puisque la clandestinité des hommes qui sont dans l'ascension du pouvoir, et ben, voilà, c'est une clandestinité en quoi ils sont clandestins, c'est-à-dire qu'ils sont en train de cacher leur valeur pénienne ou leur valeur à l'argent, ils sont en train de la dissimuler pour la faire valoir. Ce serait ce semblant-là, mais c'est un semblant de l'avoir, tandis que ces résistantes qui étaient clandestines, finalement, elles étaient reportées, c'est la différence entre la position d'une femme et la position d'un homme, elles étaient plutôt centrées sur ce qu'il y avait de ce qu'elles pouvaient ressentir de la mort, elles étaient sur cette frontière entre le vivant et la mort. Donc c'était pas une logique de l'avoir, mais plutôt une logique d'attraper l'autre dans un semblant, c'est vrai, de les aveugler, d'aveugler l'autre occupant, mais pour faire avec leur béance, avec l'impossible ou l'irréductible de faire des réseaux, alors qu'il n'y avait pas de réseau, de faire surgir quelque chose du rien. Donc on voit que c'est pas de la même clandestinité. Il y a la clandestinité de l'avoir et la clandestinité de la béance, on peut dire.
comme ça.
Ouais. Oh, c'est intéressant, Michaela. Tu poses des bonnes questions.
Je vais donner la parole à la salle après, mais Hélène, tu n'as pas répondu.
Oui, tu me demandais de parler de ce que j'ai présenté à la fin. Je ne sais pas trop quoi en dire, si ce n'est que c'est, en fait, ces deux personnes sont chacune en couple de leur côté, et c'est ce qui rend cette relation impossible, puisque ni l'un ni l'autre n'est prêt à quitter ce couple, leur couple respectif qui existe. Je dis c'est impossible, c'est l'improbable de ce temps partagé, c'est parce qu'elle se déplace, elle fait 1h30 de trajet pour le retrouver sur Paris, et qu'ils puissent passer un temps ensemble, c'est lui, il n'y croit pas, en fait, à cette chose-là. Et en même temps, il se sent tellement comblé avec elle qu'il y a, dans cette petite phrase de cet impossible, voilà, ce fantasme qu'elle puisse lui permettre d'être enfin un, d'être suivante. Son objet A, quoi. Voilà. Ce que je voulais dire par rapport à ce impossible. C'est ce que je voulais savoir.
Oui, et aussi il y avait donc cette petite question concernant tout un état bon.
Oui. C'est ce que tu veux savoir. C'était par rapport au père de Laure.
Oui.
C'est le fait que ce soit celui qui, lui, n'est pas justement, n'a pas la limite des femmes. Lui, il peut les avoir toutes. C'est par rapport à ça que je faisais référence.
Oui, oui. Et donc on peut tout à fait voir un lien avec cette idée de la. Enfin, moi, je me demande. Avec l'idée de cette clandestinité masculine, puisqu'il est question des frères qui, justement, tuent le père de la haute pour pouvoir se partager. Enfin, c'est une question, peut-être c'est pas.
Non. Donc, c'est intéressant que je parle.
Par contre, je ne sais pas où est le micro. C'est ça. Tout à l'heure, on n'a pas vu.
Il est clandestin.
Même le micro, il est clandestin.
Il est caché. Masculin,
masculin.
Ça commence par pas marcher, par contre. C'est la règle.
Écoutez, moi, je ne sais pas si je suis d'accord avec vous, façon polie, je ne suis pas du tout d'accord. C'est complètement daté, Lacan. C'est obsolète. François Delitier a parlé de la rupture anthropologique, qui était le contrôle de la procréation par les femmes. Depuis, il y a un contrôle de leur sexualité, un contrôle renforcé de leur procréation. Au niveau social, sauf si on traverse le Bosphore ou la Méditerranée, pour quand même aller loin, pour trouver les horreurs du côté de ce que Lacan appelle gentiment les sous-développés. Je suis désolé, il le dit, il ne faut pas le dire, mais sous nos latitudes, quand même, il y a les excisions sont quand même marginales socialement. Bref, est-ce que la guerre des sexes peut s'arrêter? Et au profit actuellement des femmes.
Oui. Au fond, je me disais, en vous écoutant, mais qui aujourd'hui, dans tous les mouvements culturels, toutes les voix qu'on entend, y en a-t-il qui nie la différence entre la femme et l'homme sur le plan sexuel? Personne. La différence sur le plan sexuel, elle n'est pas niée. Ce qui est, par contre, la grande clameur des dernières décennies, c'est les différences sociales, professionnelles dans le monde. Bon. Alors, là-dessus, il y a un problème, je crois. Pour ce qui est de situer la différence sexuelle, proprement sexuelle, qu'est-ce qu'on a dans la psychanalyse? Bon, laissons Freud, elle ne l'a pas, il l'a. Laissons Freud, il a fait à la fin un vœu d'échec. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a chez Lacan la différence du tout et du pas tout. On a la différence d'une jouissance supplémentaire d'un côté, pas de l'autre. On a une différence quant à la castration. Ça, j'ai été étonnée que vous ne mettiez pas plus l'accent, parce que chez Lacan, c'est très, très précis, très accentué. La castration pour l'homme, pas pour la femme, en tant que sexuée, hein, toujours au niveau du sexe. Bon. Donc, on a une série de trucs qu'on connaît bien maintenant, qu'on a bien assimilé, et qui, au fond, ne font pas vraiment problème. C'est admis. Bon, dans la psychanalyse, je parle de nous. Oui, oui. Bon. Bah, écoutez, on est là pour parler de ce que dit la psychanalyse.
Oui, mais aussi de ses échos.
Oui, bien sûr. Ceci dit, la grosse question que David a eu le mérite de toucher, mais qui me paraît quand même pas résolue par ce petit texte de Lacan, loin de là, c'est quelle est l'articulation profonde, s'il y en a une, entre cette différence sexuelle et l'organisation du corps social, qui est quand même une autre question. Là-dessus, je trouve que vraiment on a... Alors, l'idée de Lacan que les hommes... Quoi, l'ascension sociale comme métonymie de l'érection, hein, parce qu'il aurait pu dire l'érection sociale. C'est quand même pas clandestin, ça, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même tellement connu, tellement évident que c'est une métonymie du pouvoir sexuel qui se déplace sur le pouvoir social, financier, etc. Là-dessus, pas de problème. Mais la question, c'est comment est-ce que, je ne sais pas, c'est la question, est-ce que la différence sexuelle des femmes peut se répercuter dans l'organisation sociale? Parce que l'organisation sociale, actuellement, elle va vers assurer plus d'égalité sociale, politique, etc., etc. Je ne vois pas de dispositif qui serait socialement propice à s'insinuer dans l'organisation sociale, à insinuer dans l'organisation sociale la jouissance supplémentaire. Pour l'instant, je n'en vois pas. S'il y en avait, on devrait le savoir, il me semble. Hein. Donc ça me paraît un vrai problème. Et puis, je crois que aussi... j'oublie le prénom de Hélène Dudary, la fameuse distinction de la mère et de la femme. Ça aussi, c'est bien joli. Vous avez bien fait de mettre cet accent, de rappeler ça. Mais la mère et la femme, d'accord, c'est encore une petite ritournelle de psychanalyse lacanienne. La mère n'est pas la femme, ok, comme sujet, c'est absolument certain. Pas le même désir, on peut dire ça, on peut le défendre, mais c'est le même corps. Alors, quand on contrôle le corps des femmes, est-ce qu'on veut les contrôler à cause de leur jouissance supplémentaire ou parce qu'elles font les enfants? N'oublions pas que les politiques de natalité sont fondamentales dans toutes les strates et toutes les sociétés. Contrôle des natalités et que ça se calcule. Ça se calcule, la natalité. Ça s'encourage, ça s'empêche, ça se limite. Alors là, je trouve que dans la différence mère-femme, il faudrait qu'on prenne plus en compte, dans la psychanalyse, dans le discours analytique, qu'on prenne plus encore en compte le fait qu'elles font les enfants. Alors bien sûr, la science va tout changer, mais enfin, pour l'instant, on est encore... massivement sur la planète, sur une reproduction naturelle. Et voilà, et sur l'effet de l'analyse sur les souffrances que cause l'inégalité, je crois qu'il n'y a pas de généralité là-dessus. Les sujets sont si différents. Et d'ailleurs, tous les sujets ne souffrent pas de l'inégalité sexuelle, c'est pas vrai. Les hommes sont souvent bien contents d'être des hommes et les petits garçons d'être des garçons. Et il y a beaucoup de petites filles qui sont très contentes d'être des petites filles, ils m'en déplaisent à Freud. Donc, cette idée qu'on souffre de l'inégalité dans tous les cas, au niveau sexuel, ça me paraît pas si assuré que ça. Enfin, là, on peut discuter, hein, c'est un sentiment.
C'est-à-dire que souffrir de l'inégalité, c'est apprendre dans le sens que le rapport à la castration, ça a introduit des symptômes. C'est de ce côté-là qu'il faut le prendre.
Mais la castration, c'est pas l'inégalité, attention. Ah, c'est ça l'inconvénient du terme. On n'a pas questionné le terme. Et donc ça fait rentrer dans nos débats une grosse confusion. Mais de l'implicite. De l'implicite, l'inégalité, ça n'est pas la castration. Parce que la castration est quelque chose, alors tiens d'ailleurs, c'était une jolie définition qu'a donnée David Bernard, que je ne sais pas si j'opinerai dans le même sens. La castration, pour l'homme, c'est qu'il ne peut pas prendre sa jouissance en lui-même. Alors s'il y en a un qui se masturbe en lui-même, c'est bien l'homme quand même.
Oui, mais...
Oui.
C'est
l'incorps. Oui, je sais.
À propos de Hans, donc c'est l'interdit posé sur la masturbation.
Voilà, donc c'est qu'il peut, c'est justement, il peut la prendre lui-même, mais on le lui interdit. On le lui interdit parce qu'il peut la prendre lui-même. C'est ça le truc. On n'interdit pas quelque chose qui n'est pas possible.
Oui, enfin, ça ne vient jamais que couvrir le... enfin, voilà, la castration symbolique,
la castration, oui, la castration, c'est soustraire. Pour moi, malgré cette phrase de Lacan, la castration, c'est la négation du signifiant du pouvoir. Du phallus comme signifiant d'abord du pouvoir sexuel. Hein, c'est du symbolique, oui, le signifiant du pouvoir. Et dans le social, c'est pareil. C'est pour ça qu'elle est partout, la castration. Parce que l'ascension sociale de l'homme, la contrepartie de cette ascension sociale métonymie phallique, c'est que, quels que soient les succès, et dans tous les domaines, c'est notre destin de pauvres humains, quels que soient les succès qu'on rencontre, vient toujours le moment où ça se casse la figure. Bon, tous les riches ne perdent pas leur fortune, mais l'échec social, vous voyez comme ça fascine. Pourquoi ça fascine comme ça? Parce que l'ascension fascine, mais on attend que quand il est au fait, il va tomber. Bon, et donc, c'est pas... Mais pourquoi parler de ça? Ah oui, parce que l'inégalité, c'est pas la castration, je crois que ça. C'est le problème du thème, hein. C'est qu'on a pris le thème l'inégalité justement pour prendre un terme qui soit transversal entre le discours analytique et les autres discours, le discours social. C'est pour ça qu'on a pris ce terme. Bon. Et le terme castration n'a un sens vraiment, vraiment fort et défini que dans la psychanalyse, parce que partout ailleurs on l'emploie métaphoriquement, je perds un membre, c'est une castration. Bah, pas du tout. Donc, on a un problème de définition là, qui est important.
Oui, une remarque, une question et une deuxième question, une question commune et puis une question à Bernard. La remarque, c'est vrai que du point de vue de l'identité sexuelle, il y a peut-être même des différences concernant la souffrance par rapport à la différence. Et on pourrait poser qu'il y a beaucoup de garçons qui sont contents d'être garçons. Il n'y a pas une souffrance d'inégalité, mais en tout cas, il y a une souffrance pour chacun qui se confronte à l'autre sexe. Donc ça, c'est une souffrance généralisée. Pour tout et chacun qui se confronte à l'autre, il y a la dimension de l'inégalité à laquelle il est confronté, et ça fait des symptômes, parce qu'il faut régler ça. Donc ça, c'est commun aux garçons et aux filles. Maintenant, la question commune aux trois, c'est... on met l'accent dans la question de la violence, le pouvoir, la domination sur les femmes, en général avec la tendance à évoquer l'homme. Or, l'expérience de l'analyse, c'est que les gens racontent dans leur analyse, les femmes, c'est qu'elles parlent dans l'analyse, la plupart, c'est plutôt de la violence, la dimension traumatique qui a été la parole d'une mère. Pourquoi on ne parle pas dans la question de l'inégalité, la domination, la violence de ce qui échappe à une mère concernant la sexualité de sa fille? On n'aurait pas intérêt à parler de ça en tant que psychanalyste, parce que sinon on se calque sur le discours social, à parler uniquement sur la violence des hommes sur les femmes. Et puis la question à Bernard, si j'étais bien suivi, toute une première partie de ton élaboration portait sur l'infinité des hommes, sur le pouvoir, sur le travail, affinité à aller vers le travail. Alors, est-ce que cette dimension, si j'ai bien compris, elle irait dans le même sens ou pas du tout de ce que Freud disait concernant une autre inégalité, les hommes plus capables de sublimation que les femmes? Thèse contredite par Lacan. Mais dans ce que tu dis, ça indique une capacité des hommes supérieure aux femmes par rapport aux sublimations, thèse de Freud, ou tu dirais pas, ce que tu dis, c'est pas la même chose. Bon, alors explique.
Oui, non, c'est différent. C'est que le point de départ, et d'ailleurs qu'on trouve et chez Freud et chez Lacan, qui va pas vraiment dans le sens de très content d'être un homme, c'est que les hommes sont affectés plus directement par la castration, sur le plan imaginaire, du fait même d'avoir l'organe, d'avoir le pénis. C'est là où Lacan ne néglige pas du tout l'anatomie. C'est vraiment très clair chez lui. Donc ça c'est le point de départ. C'est le fait d'être affecté directement par la castration, là, pas seulement la castration au sens symbolique, du fait même de parler, mais aussi ses répercussions sur le plan imaginaire. Et c'est précisément pour ça que, du coup, il souligne une espèce de tentative de retrouver, du coup, ailleurs la puissance. Ce qui serait, voilà, la garantie d'une puissance, garantie imaginaire d'une puissance. Donc là, le phallus, en effet, comme signifiant du pouvoir, mais sur le plan imaginaire. Parce que, en vrai, précisément, le phallus, c'est un texte d'un semblant de pouvoir, donc c'est le contraire. Et donc là, il y a cette remarque donc, de Lacan à propos de l'ascension sociale, de la même façon qu'il reprendra ça aussi plus tard sur l'idéal de la profession. La profession, c'est-à-dire là où on s'avérerait capable de... Et là, il ne le dit pas uniquement pour les hommes, il le dit aussi pour les femmes. Enfin, l'idéal professionnel, là aussi, comme une tentative de retrouver une certaine garantie de puissance, précisément ailleurs que sur le plan sexuel, dans la mesure où là, il y a le non-rapport sexuel, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que la puissance, elle va être fantasmée partout ailleurs. Alors, aussi sur le plan sexuel, mais... Enfin, voilà, c'est cette logique-là qu'il indique. Et donc, en effet, comme le soulignait Colette, enfin, une tentative vaine de structure, hein, de structure, y compris quand il y a une réussite sociale ou financière. Du coup, j'ai repensé à sa remarque là, sur la difficulté des riches à aimer, par exemple. Bon, ça ferait un autre thème, hein, sur, celui de la richesse. C'est très intéressant.
Quelque chose que vous avez entendu David à Rennes et qui m'a beaucoup frappé, je ne me souviens plus qui a fait cet exposé, une jeune femme qui avec beaucoup d'émotion et d'empathie a expliqué, mais quand même, être un homme, c'est terrible. Parce que avoir un organe comme ça, dont on n'est pas maître, qui se manifeste quand on ne veut pas, qui se manifeste peut-être pas quand on voudrait, et expliquait-elle, et ça se voit. Et ça se voit. Donc, vous avez écouté, ça m'a beaucoup frappé l'expression avec une candeur absolue. Donc, ça donne une idée quand même, effectivement, de cette, comme disait Lacan, l'angoisse fondamentale de ne pas pouvoir quand il faut pouvoir. Et dans le social, quand même, c'est plus assuré. On peut performer de façon beaucoup plus sûre dans le social.
Exactement.
Que sexuellement.
Et pour dans la suite de ce que vous rapportez, là, il y a, quand Lacan dit critique Derrida parlant du phallocentrisme. Lacan dit, mais rien de plus phallocentrique que les femmes. Là, d'ailleurs, c'est tout le rapport du phallus à la parole, cette fois, donc encore autre chose. Mais après, il dit, voilà, à propos des femmes, donc une femme, pas toute le veut, le phallus, même s'il souligne l'exigence à l'endroit du phallus, sauf qu'il ajoute, ce qu'elles ne veulent pas, par contre, c'est en avoir la charge. Hein? Et ça, ce qui est le mot, donc, voilà, la charge, l'embarras, etc., ça, c'est pour les hommes, hein, ce qu'il indique là-dessus. Donc, c'est...
David, une question sur le thème, donc si l'ascension sociale, l'érection sociale des hommes vient répondre à leur castration, à quoi répond l'ascension et l'érection sociale des femmes ? Je sais pas.
Une tentative, enfin c'est pareil, c'est
si on généralisé. Si on caractérise les hommes d'être soumis à la castration et les femmes de ne pas l'être.
C'est la version moderne de l'orbite du
pénis. Ouais. Non, mais je trouve que c'est la même surenchère.
Si on fait distinction entre femmes et femmes, tu places là la sanction comme venant réponse à la castration des hommes. Donc, l'ascension sociale, l'érection sociale, le pouvoir phallique, ça existe aussi chez les femmes.
Ouais, ben là-dessus, je trouve, moi j'ai retravaillé récemment sur le cas de Joanne Rivière dans son article sur la mascarade féminine. C'est extrêmement intéressant ce qu'elle rapporte sur cette femme, qui sur le plan social va accéder à certains postes, fait des conférences, etc. Et donc là, ce qu'elle démontre, c'est un effet aussi d'angoisse chez cette femme, liée cette fois à la privation. À la privation, mais aussi dans un rapport au phallus. Et avec un parlant du sentiment d'illégitimité. D'illégitimité quand elle accède, quand elle a un succès sur le plan social. Ce qui peut être à distinguer de l'angoisse de performance, etc. Donc là aussi, il y aurait peut-être des... Mais voilà, donc, en tous les cas, une surenchère du pouvoir phallique pour tous, tel que porté par le discours. Comment ?
Si vous voulez également répondre à la question, parce que ça fait pas le
temps. La question de Luis, c'est ça ? Oui, je suis d'accord, mais c'est là que j'arrive pas à trouver de rapport vraiment à mon exposé, mais sinon c'est peut-être pas parler de mère à fille, je suis d'accord avec cette exploration. Peut-être comme vous, vous avez plus un rapport.
Non, j'ai juste envie de dire que j'ai répondu aussi à ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé d'écrire sur l'inégalité entre femmes. Je ne veux pas parler des mères et des filles ensemble.
Ça ouvre en fait, cette remarque ouvre pour peut-être la suite du séminaire. Et déjà que vous avez fait le lien avec le séminaire Jean-Lacanien de l'année dernière sur la ségrégation. C'est vrai que là, il y a une
s'il n'y a pas une dernière question, on va peut-être 2 heures.